Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune, du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30.
Bonsoir à tous, nous sommes lundi 4 décembre 2023, il est 17h30 et vous êtes sur Prune 92 FM, pardon, Prune, hein. Bienvenue dans Curiosité, votre émission quotidienne d'actualité locale. Je m'appelle Martin et c'est toujours un plaisir de vous retrouver à l'antenne chaque lundi avec mon équipe, cette fois-ci pas au complet mais pour une heure de programme quand même sur l'actualité de Nantes et ses environs. Tout de suite, le programme de ce soir, nous allons parler, alors bien évidemment vous avez vu le temps qui est un petit peu maussade avec beaucoup de vent. Bien évidemment, il y a toujours une conséquence sur l'écologie. Nous allons parler dans un premier temps avec Enzo ce soir sur l'appel à mobilisation de ce samedi 9 décembre 2023 à partir de 10h à Doulon pour lutter justement contre la bétonisation du coup des terres fertiles. Bonsoir Enzo.
Bonsoir.
Enzo vous a invité du coup ce soir sur le plateau deux personnes qui font partie du collectif Sauvons les Godas. Nous avons tout d'abord Alice Gatineau. Bonsoir Alice.
Et bonsoir, Sauvons les Goas.
Sauvons les Goas, pardon. Et également du coup Reynald Guibert de la CGT qui appartient également au collectif. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous continuerons juste après avec le Labo des Savoirs par Sophie qui est de retour. Nous continuerons après avec la pause cadeau par Esteban. Et pour finir, par un interview sur une autre façon de découvrir les musées via un atelier d'écriture. C'est tout de suite dans Curiosité.
Curiosité. Le Zoom Actu.
Chaque mètre carré compte, mais au service de qui et pour quel but ? Nantes semble avoir métamorphosé son paysage en devenant un véritable Jardin Nantes, un grand magasin de terre à ciel ouvert où chaque parcelle inoccupée devient une opportunité pour y faire éclore de nouveaux bâtiments, récoltant ainsi les semences inestimables pour le bénéfice des agriculteurs du béton, les promoteurs immobiliers. La croissance démographique de la ville impose une forte contrainte immobilière poussant la métropole à exploiter des terres naturelles pour en faire une offre de logement. Mais la manne financière que représentent ces terrains aiguise donc l'appétit des promoteurs pour qui l'argent est devenu l'alpha et l'oméga de toute leur démarche. Alors dans le viseur de la ville, le quartier Doulon-Beautière et son projet Doulon-Goar. Anciennement une zone maraîchère, les 180 hectares du site vont être utilisés pour la fabrication d'un nouveau quartier de 2500 à 3000 logements. Seul problème, parmi tant d'autres, la majeure partie de cette surface est une zone humide, cultivable et réservoir de biodiversité. Face à une pression croissante sur les problèmes environnementaux, le projet urbain se défend d'être en phase avec la nature qui environne le site, proposant des aménagements mettant en valeur le ruisseau du Goar ainsi que l'installation de 4 fermes urbaines. Pourtant, le respect de la nature ne serait que la guirlande sur le sapin, un décor, une couverture. Du moins, c'est ce qu'en pense l'association Sauvons les Goars, opposée au projet d'étalement urbain et qui appelle à une mobilisation générale samedi 9 décembre prochain. Bétonner ou cultiver, telle est la question, mais nos invités semblent avoir déjà tranché la question. Alice Gatineau de Sauvons les Goas, Reynald Guibert du même collectif mais également de CGT Nantes sont avec nous pour nous parler de cette lutte contre la construction de ce quartier. Bonsoir à vous trois. La mairie de Nantes se vante de construire un futur éco-quartier à la fois urbain et agricole, fertile, qui respectera la biodiversité du lieu, ce qu'elle appelle un corridor de biodiversité dans cet espace appelé même l'étoile verte de Nantes. Ce discours, pour vous, association de défense du lieu, n'est qu'une communication mensongère. Alors pourquoi ne pas croire la métropole sur ses intentions de préserver la biodiversité du lieu ?
Alors d'abord pour rappeler, Sauvons les Goars, c'est du coup un collectif d'habitants et d'habitantes de Doulon, mais aussi de militants et militantes qui ont rejoint sur des causes écologistes mais aussi sociales et qui justement mettent vraiment en cause ce discours-là sur la métropolisation. Alors pourquoi remettre en cause de belles promesses, on va dire. Déjà, pour dire que en fait, ce projet de ZAC de Doulon-Goar, il date depuis déjà plus de 2016. Et c'est un quartier qui est, en fait, qui est vraiment un énorme projet. Et, au départ, l'intention première, c'est la construction En fait, la bétonisation et la construction de entre 2500 et 3000 logements. C'est bien de parler de logements, on en reparlera aussi, nous, justement, parce que justement, l'objectif, c'est pas d'opposer forcément un besoin de logement qu'il faut interroger et d'ailleurs sur lequel il faut se pencher, mais qu'il faut quand même prendre aussi en question, enfin questionner. Il nous appartient aussi de le questionner, mais et aussi du coup cette question-là de la fois du logement et qui ne doit pas être mis en rivalité avec la bétonisation de terres qui sont encore des terres fertiles. Du coup, nous, ce qu'on a voulu porter, c'est l'idée que c'est au moins, hein, parce que là, pour l'instant, on parle d'au moins 25 hectares de terres fertiles, doivent être préservées et cultivées. Et ça, avec Rénal vous en parlera aussi sur le contre-projet qui est porté par la CGT Ville de Nantes Nature et Jardin. Mais ne pas opposer ça au logement et les questions vraiment du logement, nous, on l'apporte aussi en disant, en fait, penchons-nous ensemble, habitants et habitantes de Nantes et de Doulon et d'autres organisations qui ont rejoint, pour savoir et pour donc, cultiver sur les terres à Doulon et construire sur des terres et des sols déjà artificialisés. Et ce qui est du coup tout l'objet de surtout pas mettre en confrontation ici des... Enfin, parce qu'on nous dit souvent, hein, quand on parle justement de ça et du besoin de préserver ces terres fertiles, oui, mais il faut bien loger les personnes. Du coup, nous, c'est quelque chose qu'on interroge, qu'on ne nie pas, mais qu'on questionne. Et c'est pour ça qu'on a avancé aussi sur à la fois l'opposition du coup à ce projet, mais aussi la construction d'un contre-projet sur lequel on travaille. Et je dirais un dernier truc sur justement, il y a des fermes urbaines qui sont avancées et en fait, pour nous, vraiment, c'est des projets vitrines et des projets prétextes, parce que en fait, jamais pour nous, on pourra justifier de, parce que 8 hectares, parce que là, ça représente un peu moins, 8 hectares, on va dire, qui seront cultivés pour au moins 25, mais si ce n'est, ce serait plutôt plus autour de 30 hectares qui pourraient être cultivés et qui sont bétonnés. Donc pour nous, ça ne pourra jamais être le prétexte pour justifier ensuite de construire et sur ces terres-là qui doivent être préservées pour nous.
Comment vous êtes en arrivé à la conclusion qu'il y a encore des zones humides sur ce territoire ? Parce que c'était l'une, enfin c'est ce qui a été d'ailleurs questionné face à la construction. Et vous avez mis en avant qu'il y a encore des zones humides qui ne doivent pas être bétonnées. Comment on arrive à ces conclusions-là, que ces zones sont encore humides ?
Les sondages de terrain. Voilà. Si tu commences à forer un petit peu, tu t'aperçois qu'à partir de 1 mètre, 1 mètre 20, c'est humide.
Et qu'est-ce qu'on en fait de ces zones humides ? Qu'est-ce que pourrait être...
Oui, pourquoi elle nous intéresse ?
Oui, pourquoi elle vous intéresse ?
En fait, il faut savoir que pour construire pour artificialiser toutes ces terres et se défendre de ça, la Nantes Métropole, a dû fournir une étude d'impact et justement recenser ces zones humides. En fait, aujourd'hui, sur une zone humide, on ne peut pas construire. Donc, vraiment, c'est un argumentaire pour lequel, justement, là, à ce moment-là, quand tu veux construire et pour ces études-là d'impact, tu dois les délimiter, les prendre en compte et... ensuite, il y a tout un rapport qui est justement un rapport qu'on interroge aussi, qui est assez fou par rapport à des zones qu'il faut garder, d'autres compenser. En fait, c'est tout un calcul et c'est pour ça aussi qu'on parle d'espèces protégées. Il y a des espèces protégées qui ont été déjà inventoriées dans cette étude d'impact, mais que Nantes Métropole se permet de détruire parce qu'on l'autorise finalement à détruire ses habitats pour en construire et en compenser d'autres. Donc c'est tout aussi un calcul sur une histoire de compensation qu'on remet quand même...
Et on serait sûr que la construction de ce quartier aurait des conséquences néfastes sur la biodiversité des lieux, les animaux, mais les plantes et autres, tout ce qu'on pourrait cultiver dessus. Ça, on en est sûr.
Oui, d'ailleurs, je vais répondre aussi pour les zones humides. Justement, il y a ce travail de délimitation. Et nous, ce qu'on a voulu faire, et on a été rejoint en ça par toute une coalition, notamment des naturalistes des terres et aussi des scientifiques en rébellion, qui interrogent ces projets de métropolisation et qui, du coup, sont venus pour nous apporter leur savoir et leur soutien, justement pour faire des relevés naturalistes, recenser les espèces protégées, faire des relevés SON. Et du coup, pour la zone humide, par exemple, il s'agit en fait de faire des relevés. Il y a des végétaux qui sont caractéristiques de zones humides, déjà qu'on peut inventorier comme étant rentré dans la base des zones humides. Et ensuite, il y a des relevés pédologiques, c'est-à-dire du carottage de sol. Et après, des écologues sont en capacité de lire ces informations et nous les ont partagées. Et c'est pour ça que c'est vraiment un des leviers juridiques. Et en fait, tout ce qu'on avance, nous, il y a des questions politiques et il y a des questions juridiques qui peuvent nous amener et nous permettre justement d'obtenir ces victoires politiques et construire le Doulon qu'on voudrait. Et du coup, sur le volet juridique, là, on conteste l'autorisation environnementale qui a été faite sur ce projet. Et du coup, en disant qu'il y a des zones humides que nous avons inventoriées qui n'ont pas été délimitées, également des espèces protégées qui n'ont pas été prises en compte, tout en avançant, nous aussi, et c'est aussi tout le jeu et le dilemme du juridique, tout en avançant que les espèces qui ont été inventoriées n'ont pas non plus vocation à être détruites, et on les défend aussi.
Pourtant, le tribunal a rejeté votre recours il y a peu de temps, créant des doutes sur l'origine et la présence de zones humides. Quels sont les arguments du tribunal pour rejeter votre recours?
Déjà, faut savoir que en fait, sur ces batailles-là, parce qu'on appelle ça comme ça, sur ces batailles-là, politiques et juridiques, le temps du juridique, un temps sur le temps long. Et nous, en fait, on a contesté l'autorisation environnementale et le procès devra se tenir dans les 6 mois à venir. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est en fait attaquer ce permis de construire au temps où il était encore temps pour pouvoir fournir des preuves et sur lesquelles on a beaucoup travaillé aussi. Il faut rappeler qu'on est vraiment un collectif au départ d'habitants et d'habitantes. Du coup, en fait, tout ça, on l'apprend aussi et toutes ces contestations-là, elles sont. C'est pas parce qu'il y a un recours qui est perdu qu'il n'y en a pas d'autres. D'ailleurs, nous, là, par rapport à ce recours dont tu parles, on va aller au Conseil d'État parce qu'on a pu aussi emmagasiner les preuves nécessaires et notamment. Un truc intéressant du tribunal administratif, c'est qu'ils ont demandé quand même à la métropole de faire des études complémentaires. Et il y a des études complémentaires d'ailleurs qui n'ont pas été faites. Du coup, en fait, c'est quand même aussi un jeu qui est intéressant à regarder de près dans les détails et surtout dans le long cours.
Vous avez aussi dit que les citoyens n'avaient pas été consultés pour ce projet. Pourtant, la métropole se défend d'avoir organisé des ateliers citoyens avec à peu près 35 personnes, un panel de personnes choisies, pour penser le futur du quartier organisé par l'intermédiaire d'une société privée, Scopic, agence de communication et de concertation. Pour vous, ce n'était pas une vraie consultation. Pas citoyenne, du moins.
Alors, c'est ce qui nous rapporte. Pour eux, les concertations, ça a été une chambre d'écoute, mais c'était surtout eux qui étaient là pour écouter. Ils n'ont pas eu l'impression d'avoir été entendus par la municipalité. Ils disent que quand ils sont arrivés, tout était tracé et qu'il n'y aurait aucune ligne qui aurait bougé. Donc, ils ont le sentiment de ne pas avoir eu de concertation.
Et parce que voilà, c'était aussi le projet de la métropole de mettre au cœur les citoyens dans ce projet. Pour vous, ça n'a pas été le cas parce que le projet était déjà assez mature pour engager cette construction. Mais vous dites aussi, au-delà de la biodiversité, que les habitants seraient perdants de cet écoquartier, de ce quartier. En quoi ?
En calme, sérénité, santé publique, pollution. Voilà.
Parce que le projet n'est pas en phase avec ce que prétend vouloir la métropole. Ça ajouterait du trafic, du monde.
Ah oui, ça c'est absolument indéniable. Et d'ailleurs, du trafic, on parle quand même de 3000 logements, donc plus de 5000 habitants et habitantes supplémentaires sur des axes qui aujourd'hui, il faut aller se balader à Doulon quand même. Les routes, elles sont étroites. Il y a plein de personnes sur les marchés en fait, avec qui on discute, les habitants et habitantes, qui nous disent, mais en fait, ils sont aussi assez lucides, ces constructions-là et ces écoquartiers-là, c'est pas pour les habitants et habitantes de Doulon, c'est pour faire venir c'est vraiment tout le jeu de l'attractivité et de la métropolisation, faire venir de nouvelles populations et pour en remplacer d'autres. Il n'y a pas plus de l'autre dimanche matin sur le marché d'un habitant qui nous dit, on voit très bien qu'il rase même parfois des petits PMU pour construire des logements. Et en fait, petit à petit, c'est nous qu'on veut éloigner, notamment financièrement. En fait, les prix grimpent et c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut interroger. En fait, on n'est ni sur un besoin, ni sur, enfin, en tout cas, pas un besoin exprimé des habitants et des habitantes de, on n'a pas écouté. Est-ce que finalement, vous avez besoin d'infrastructures sportives, par exemple, supplémentaires, etc. Non, c'est plus, enfin, du coup, d'où l'idée aussi, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir que il y a pas mal d'habitants et d'habitantes qui ont participé aux concertations et qui sont aujourd'hui avec nous, attractés à participer
membres
à tout ça.
Membres du collectif.
Et oui. Effectivement, les membres du collectif et justement avoir envie de créer des espaces. Et c'est de là aussi qu'est venu le contre-projet, de créer des espaces vraiment de discussion où on discute sur la table de tous les enjeux qu'il y a autour du quartier de Doulon, mais pas que d'ailleurs de Nantes, parce que je t'entendais dans l'introduction parler justement de l'étalement urbain. En fait, il y a un argument qui revient très souvent, c'est qu'il faut densifier dans les villes pour éviter d'étaler dans les campagnes. Sauf qu'en fait, vraiment, tout porte à croire et les taux d'artificialisation au Pays de la Loire le montre aussi, et notamment autour de Nantes et dans la métropole, c'est qu'en fait, on fait les deux de front, et parce que les logiques qui sont, c'est des logiques à la fois d'attractivité des villes et qui nécessitent d'autres constructions, du coup, autour, en métropole, un hangar Amazon, enfin, toutes ces choses qui sont directement liées, en fait, à la croissance exponentielle des villes, et qui est aujourd'hui ce qu'on remet aussi en cause à Toulon, mais donc pour Nantes et pour tous les autres quartiers qui sont amenés aujourd'hui.
Donc l'étalement urbain ne pourrait pas être concilié avec écologie et préservation de la nature, selon vous ?
Bah oui, non, en fait, nous, de toute façon, vraiment, ce qu'on défend, c'est non pas densifier à tout prix les villes, mais en tout cas construire sur des sols qui sont déjà artificialisés. Ça, construire sur des sols artificialisés, ne plus aucune artificialisation, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, et s'interroger aussi sur le besoin de logement ou non, ou le besoin de croissance. Est-ce que les villes ont besoin de croître, ou est-ce que les villes ont besoin de loger les habitants et habitantes ? Et du coup, ça, c'est des choses sur lesquelles on a vraiment le droit de se poser des questions et de trouver des réponses.
Et les terrains de Doulon, aujourd'hui, à qui appartiennent ces terrains ?
À la collectivité.
Donc la collectivité peut en faire ce qu'elle veut, d'une certaine manière. C'est là le problème, puisqu'elle a la légitimité d'aller jusqu'au bout.
C'est là que nous, à la CGT, on a des propositions.
Lesquelles ?
D'un maraîchage public, de la crèche aux EHPAD. Aujourd'hui, actuellement, aux espaces verts, on fait du maraîchage par petits endroits. On est des paysagistes, nous, les jardiniers de la ville.
Ouais.
On n'est pas des maraîchers. Maraîcher, c'est un métier.
Donc le but serait de redévelopper l'activité qui était d'antan sur ces territoires-là.
Tout à fait. Tout à fait.
Et la question du logement, vous en faites quoi ? C'est dans votre contre-projet ?
Eh bien justement, comme elle le dit Alice, des terres qui sont déjà occupées par le béton, bah, faudrait plutôt rentrer dans une politique de débutimiser ces lieux pour en faire du vert. Un éco-quartier sur ces sites-là, plutôt que d'y laisser le béton.
Oui, et notamment, nous, on regarde de près, et après, tout est à l'étude, mais là, en fait, une zone qui est vraiment juste au nord de Doulon, et qui est Nantes-Est Entreprise, pardon, qui est vraiment un endroit où il y a énormément de locaux vides, des bâtiments de grands parkings qui sont vides aussi, des bâtiments sur un étage, parfois, à peine. Et en fait, c'est ces zones-là qui sont des zones...
constructibles.
Voilà, c'est des zones... Et ce qui ne nous empêche pas aussi de réfléchir à des, comme tu disais aussi, Rénal, enlever aussi du bitume où il faut, mais en tout cas, construire de façon raisonnée. Et puis nous aussi, c'est un des arguments, c'est qu'est-ce qu'on construit comme logement, des logements. Parce que là, il y a quand même un gros point, c'est que les zones, on en a parlé de zones humides, et donc zone humide égale zone inondable aussi. Et du coup, c'est des quartiers qui sont vraiment, qui sont sur un château de cartes et qui vont être des endroits, ça pose la question de quelle construction on fait dessus et dans quelles conditions vont vivre les personnes. Et ça, Beautière-Chesnay, qui est un nouveau quartier aussi, est un très bon exemple où à peine 7 ans déjà ou 10 ans de vie, et les bâtiments sont en très mauvais état avec des infiltrations et tout à cause de l'humidité. Et on découvre que construire sur des zones inondables, c'est pas toujours bon pour le logement non plus.
Est-ce que la mairie, la métropole, entend vos projets, entend vos revendications ?
Alors nous, on a fait un courrier à Madame la maire pour lui demander une rencontre pour discuter de ces terres. On a fait un tract où on a expliqué ce qu'on voulait en faire de ces terres, avec des propositions sérieuses pour des qualifications dans nos métiers et dans le service public. On n'a toujours pas d'invitation de Madame la maire pour être reçue pour discuter. Voilà.
Pas de réponse de la maire sur ce projet-là. Et donc, vous menez des actions autres. Quelles ont été ces dernières actions sur les derniers mois ? Vos actions du collectif ?
Du coup, déjà, savoir que ça fait en fait plus d'un an quand même que les travaux, ils n'ont pas lieu alors qu'ils devaient commencer en octobre 2022. Et donc, du fait, à la fois, comme je disais, d'avancer sur tes deux pattes entre le juridique et les actions politiques. Comme action, il y a eu, du coup, il y a un an, la plantation d'un verger de résistance en octobre, qui a d'ailleurs été bizarrement disparu au bout d'une semaine. Donc, ça devait peut-être pas être assez bien planté. Mais en tout cas, nous, on est revenus. Et il y a aussi des actions d'une fête en juin sur les terres, et où notamment il a été enlevé, en fait, le grillage qui empêchait vraiment la circulation des habitantes et des habitants, et qui avait vocation à privatiser encore ces lieux. Et du coup, là, on appelle aussi à une journée de mobilisation ce samedi 9 décembre, entre 10h et 22h, donc au bout de l'impasse de la rue Henri-Loiret. C'est vraiment l'occasion de venir voir ces terres, parce que franchement, il faut se rendre compte aussi de ce que c'est aujourd'hui dans Nantes. Plein de personnes n'en croient pas trop leurs yeux. Et donc là, ça va être toute la journée. Il y aura deux cantines, midi et soir, donc pas d'excuses, il faut rester. Il y aura des concerts aussi, donc Et des actions, il y a des actions surprises, des actions naturalistes, des actions de construction. Le but, c'est de préfigurer vraiment ce qu'on veut et d'arriver et de l'affirmer avec beaucoup d'orgas qui ont rejoint ça, qui nous ont rejoint aussi sur cette mobilisation. On parle de Extinction Rébellion, Nantes en commun, le MNLE et la CGT qui faisaient partie de la coalition de Sauvons les Goars. Mais nous ont rejoint aussi des collectifs là sur cet appel à la mobilisation comme ATTAC, comme la coalition des soulèvements de la terre du Grand Ouest. Et également aussi plein de luttes locales en fait, qui sont dans la métropole, victorieuses, notamment celle de Corcoué contre le méthaniseur. Donc voilà, ça va être un grand moment. Beaucoup d'habitants et d'habitantes, d'étudiants, d'étudiantes en architecture, enfin vraiment beaucoup de personnes se retrouvent dans ces projets-là. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir samedi, donc des actions un peu toute la journée, notamment une manifestation dans la ZAC. Et un concert, il fera peut-être froid, mais couvrez-vous, mettez des bottes et vos lampes frontales et rejoignez-nous.
Vous l'aurez compris, le match de la terre contre le béton est lancé. Merci à vous trois, Alice Gatineau de Sauvons les Goars, Margot Medcourt de Nantes, elle n'est peut-être pas là, Renaud Gilbert de CGT Mairie, pour nous avoir parlé de cette lutte contre le projet Doulong Goar. Et je le rappelle, comme vous l'avez rappelé, une mobilisation est prévue le 9 décembre prochain rue Henri Loiret, à partir de 10h. Restez avec nous, chers auditeurs, chères auditrices, on va se réchauffer un petit peu avec l'artiste, c'est peut-être un peu paradoxal breton, mais quand même, Agave en duo avec Mathilde Olivier et son titre Chaleur épique sous les Tropique, à tout de suite dans Curiosité.
Corps, que rien ne dort. J'y crois encore à cette nuit qui nous traverse, à nos amours sans cesse. Mais tu cours encore, après quoi? L'amour est mort depuis moi. C'est dans ton cœur que je demeure. J'y crois encore à cette vie qui nous caresse, à nos amours sans cesse. Mais tu cours encore, après quoi? L'amour est mort depuis toi.
Merci Enzo pour cette interview et merci également du coup à Alice et à Reynald d'avoir accepté notre invitation et de nous parler de toute cette mobilisation sur le projet ainsi que leurs préconisations pour un Nantes du coup meilleur dans ce quartier. Tout de suite, je laisse l'antenne du coup à Sophie du laboratoire du Labo des Savoirs qui vous parlera du sujet qui suit à l'instant.
Les sciences.
Curiosité, l'actu locale sur Prune, du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30.
Salut, c'est Yeltaz du Labo des Savoirs pour la chronique sur l'actualité scientifique. Cette semaine, on parle de la naissance d'une île au Japon. La naissance, c'est toujours un événement très important et émouvant, même quand il ne s'agit pas de nous autres, humains que nous sommes, ou de nos animaux de compagnie. Ainsi, la naissance d'une étoile est un événement majeur dans la vie d'astronome, et la naissance d'une île peut également se révéler être un événement majeur dans la vie de géologue ou de biologiste. Justement, au large du Japon, c'est bien une île qui est née début novembre, et qui est née de l'éruption d'un volcan sous-marin. Pour le moment, cet enfant volcanique, qui n'a pas encore de nom, est constitué de fragments de roches et de cendres qui se sont accumulés après avoir été éjectés par le volcan. Ce qui fait que l'île est très vulnérable à l'érosion par les vagues et pourrait disparaître presque aussi rapidement qu'elle est née. Donc, pour que cet îlot se pérennise, il faudrait que le volcan se mette à éjecter des coulées de lave qui, après leur refroidissement par l'océan, seraient bien plus solides que les roches et la cendre. Une nouvelle île, c'est un nouveau milieu vierge de vie. De ce fait, pour les biologistes et écologues japonais et japonaises, l'îlot deviendrait une sorte de bac à sable, un laboratoire à ciel ouvert qui leur permettrait d'étudier en grandeur nature comment un écosystème se met en place, notamment sur ce point isolé, situé à 1200 km de Tokyo. Et ne nous méprenons pas, bien que les scientifiques se refusent à toute introduction artificielle de plantes ou d'animaux, l'arrivée des premiers habitants peut aller très vite. Prenons l'exemple de Surdi, une île islandaise née en 1963, elle aussi d'une éruption volcanique sous-marine, et située à plusieurs kilomètres de la Terre la plus proche. Au départ vierge de toute vie terrestre, il a fallu moins de 40 ans à Surdi pour y voir apparaître entre autres des dizaines d'espèces végétales, des dizaines d'espèces d'insectes, plusieurs espèces d'araignées, une espèce d'escargot et même une espèce de lombric. Ces espèces, elles n'apparaissent pas par magie. Elles sont transportées accidentellement dans les plumes des oiseaux ou alors par le vent, voire même l'océan. Ainsi, pour la protéger, l'Islande a classé l'île en tant que réserve naturelle dès 1965 et en a interdit l'accès au public. Si notre nouvelle-née japonaise parvient à survivre aux vagues, elle devrait pouvoir accéder au même traitement. Voilà pour l'actu de cette semaine. Cette chronique est à réécouter sur le site de Prune, sur la page de Curiosité. Restez à l'écoute pour l'émission du Labo des Savoirs de mercredi. On parlera de la fabrique de la ville et de la santé mentale. Rendez-vous à 19h.
Il est 17h57, vous êtes toujours dans Curiosité, bon retour du coup parmi nous. Tout de suite, nous laissons la place à Esteban, du coup notre lutin qui va vous proposer la pause cadeau. La pause cadeau.
Ce soir, Prune t'a fait gagner deux places pour le concert de Petite Gueule qui aura lieu le mardi 5 décembre à 20h30 à la Bouche d'Air. Avec son rap nourri de chansons à texte ou l'inverse, Petite Gueule fait une grosse impression partout où elle passe. Un caractère bien trempé doublé d'une bête de scène. C'est sans doute la seule rappeuse à avoir exercé son flow en récitant des alexandrins. Venue du théâtre classique et passée par les comédies musicales, la comédienne et musicienne Manon Gilbert a opéré un virage à 180 degrés à une période pour le moins propice aux remises en question, le fameux premier confinement de 2020. Avec beaucoup de hargne et un franc parler qui fait plaisir, la grande gueule a donné naissance à Petite Gueule. Une artiste qui a d'abord percé sur les écrans avec des clips confinés qui ont totalisé plusieurs dizaines de milliers de vues sur internet et même une participation à l'émission de télécrochet The Artist. Bref, pour avoir la chance de gagner deux places pour son concert à la Bouche d'Air, envoie-nous un emoji fée sur l'Instagram de Prune. C'est tout pour la pause cadeau d'aujourd'hui. On se laisse avec la suite de l'émission, mais avant, le morceau « Moi je crois aux fées » de justement Petite Gueule. Bonne écoute.
Moi je crois aux fées, je crois même qu'on en rencontre plusieurs. Je crois que notre route c'est une piste de dés, je crois que l'illusion elle est ailleurs. Je crois qu'on peut même tous en être une, être la fée de quelqu'un ou de quelqu'une. Faut juste les voir, c'est ça qui compte. Ce qui fait ce qu'on est, c'est les rencontres. Ce qui fait ce qu'on fait, ce qui fait ce qu'on dit, ce qui fait ce qu'on pense, ce qui fait ce qu'on rit. Parfois quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on a croisé là juste une fois, qui nous a marqué pour la vie, qui le sait pas, qui fait sa vie. C'est ça une fée, elle est juste face et ça suffit. Et puis il y a celles qui sont là depuis toujours, qui étaient là avant qu'on existe, qui sont toutes pleines d'amour, qui nous ont tout appris, qui brillent, qui font ce qui nous échappe, ce qu'on contrôle pas, que l'air de rien on est comme ça, c'est la famille. Paladam, paladam, paladam. Ouais, moi j'aime bien cet air-là, l'air de rien, rien ou presque. Presque rien, ça tient à quoi? Y'a des faits, moi j'y crois. Regardez bien, ça tient juste à ça. Y'a celle aussi, celle qu'on choisit, avec qui on philosophie. Celle avec qui on explore tout, on cherche, on pose, on comprend tout. C'est celle qui reste et qui clignote, qui sont la croix, qui l'enloupiote. Celles à elles volent, font partie de nous, ouais, c'est les bottes. Et sur le chemin, y'a les anciens, ceux-là ils ont des yeux qu'on retient. Nous ont capté et nous enseignent ce qu'il y a à savoir pour qu'on comprenne. Avec classe, nous donne des ailes, nous ont transmis qu'à prendre ce rêve. La vie fait qu'on les quitte, mais ils savent pas combien ils nous élèvent. Paladam, paladam, paladam. Ouais, moi j'aime bien cet air-là, l'air de rien, rien ou presque. Presque rien, ça tient à quoi? Y'a des faits, moi j'y crois. Regardez bien, ça tient juste à ça. L'air de rien, on sait pas comme on aime bien cet air-là. L'air de rien, rien ou presque. Presque rien, ça tient à quoi? Y'a des faits, moi j'y crois. Regardez bien, ça tient juste à ça. Surtout, y'a celles qui sont partout, dans un endroit, on sait pas où, qu'on connaît pas encore, qui nous attendent quelque part, qui font que parfois par hasard, y'a des moments en or, qu'on devait partir, mais que juste là, sur le rebord, on a trouvé un signe, on a dit en même temps, on a tourné à gauche, on a pris un peu le temps, on est tombé sur ça, on est tombé sur toi, ce qui nous caractérise, je crois que c'est comment on voit.
Curiosité. L'actu locale sur Prune, du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30.
Auditoris, vous êtes toujours sur Prune dans l'émission Curiosité. Il est désormais 18h02, pile poil. Tout de suite, nous avons la chance d'accueillir Tonia, Tonia Millaré, du coup animatrice, l'une des animatrices de La Plume, etc., qui vous propose de voir l'exposition Une vie à soi de Suzanne Valadon, autrement en mêlant écriture, imaginaire et créativité via un atelier d'écriture pendant 2 heures organisé ce mercredi 6 décembre 2023 à partir de 14h30 au musée d'art de Nantes dans le cadre du mi-temps des expositions. Alors sortez du coup votre plus belle plume, nous allons tout de suite décrire en quoi cela consiste. Alors tout d'abord du coup Tonia, bienvenue sur le plateau.
Merci, bonsoir.
Tonia, alors de manière générale, alors moi je sais pas, est-ce que toi Enzo, du coup, t'as déjà participé à un atelier d'écriture ?
Non, mais j'ai déjà fait de l'écriture créative à l'université.
D'accord.
Creative writing, comme on dit en anglais.
Ok, bah, c'est dans le même esprit. En fait, l'idée, c'est de poser son imaginaire par l'écrit, et l'idée, c'est de laisser s'exprimer ses idées. Et comme j'ai un slogan, un peu, c'est libérer son imaginaire et voir l'exposition autrement. Et un atelier d'écriture, en fait, se passe ainsi. Vous avez des participants et l'animateur propose, on va dire, des petites consignes qui donnent l'impulsion à l'écriture. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse s'exprimer et avec donc, cette exposition... Cela permet aussi de poser son imaginaire sur le travail d'un artiste, sur les pensées aussi d'un artiste, parce que là, avec Suzanne Valadon, on va explorer, on va dire, son univers et sa façon, on va dire, de s'exprimer à travers sa peinture. Donc voilà, donc ça permet à la fois de, on va dire, de connaître une exposition et d'exprimer par l'écrit ce qu'on ressent de cette exposition, et j'ajouterais que sans le regard du spectateur ou de celui qui écrit, une exposition, quelle qu'elle soit, ne peut exister, en fait. Et y a aussi un objectif, mais ça, peut-être, on ne va pas le développer aujourd'hui. À l'origine, c'était aussi de faire venir des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de franchir le seuil d'une galerie d'art contemporain, de le franchir via l'atelier d'écriture, ça permettait d'enlever les appréhensions. Voilà. J'ai commencé les ateliers d'écriture, on va dire en 2010, mais la spécificité de proposer des ateliers d'écriture au sein d'expositions a commencé en 2011.
Donc en fait, Donia, du coup, il y a, alors si je me trompe, hein, du coup, il y a trois lieux justement dans le cadre du coup des mi-temps des expositions.
Oui.
Donc il y a du coup ce mercredi qui se déroule du coup au musée d'art de Nantes.
Voilà.
Et il y a également du coup d'autres dates. Il y a le 8 décembre pardon du coup à l'atelier qui est situé plutôt.
Alors l'atelier d'écriture qui se tient donc le 6 décembre prochain. C'est le dernier, on va dire, parcours, en fait, la dernière étape de notre parcours, de notre troisième parcours au mi-temps des expositions nantaises. L'atelier dont vous faites allusion est l'atelier précédent.
Oui, donc le 8 novembre, du coup, dernier, du coup, c'était voilà. À l'atelier, et à la fois d'avance, avait commencé le 10 octobre, et c'était, du coup, au muséum d'histoire voilà. Naturelle.
Tout à fait.
Et c'est vous-même, du coup, qui avez animé aussi peut-être les autres ateliers qui étaient précédemment ?
Tout à fait.
Parmi tant d'autres, il y en a. Alors, vous n'êtes pas toute seule, il y a d'autres personnes qui font, d'autres animatrices, animateurs peut-être qui...
Alors, nous sommes un duo. Marie-Odile Housset, donc on va dire, m'aide pour la programmation. Et d'autant plus que cette amie a déjà l'expérience de coordination, bon, de galerie, puisqu'elle avait, à titre bénévole, coordonné à l'origine aussi le Centre d'art contemporain à Montrelais. Et ensuite, elle a animé, coordonné la Maison Bonchamp à Montrelais. Donc voilà, et c'est par, on va dire, par son intermédiaire, et par notre passion à toutes les deux pour l'art, que nous proposons en fait depuis 2023 ces parcours au mi-temps des expositions nantaises.
Donc comme vous l'avez dit, c'est vraiment du coup pour pouvoir allier en même temps atelier d'écriture pour pouvoir tester ou retester et en même temps du coup exposition artistique à travers un musée et pouvoir l'appréhender du coup différemment pour pouvoir s'exprimer en tout cas autant à l'écrit du coup.
Oui, ça tout à fait. J'ajouterais que nous proposons à chaque fin d'atelier d'écriture au sein des expositions un livret. Ça veut dire que nous tenons vraiment à ce qu'il y ait une trace écrite de ce qui a été produit lors des ateliers et lors des expositions. Donc ces livrets sont, on va dire, concoctés par ma collègue Marie-Odile Housset. Et moi, j'en ai apporté quelques-uns, mais à la radio, c'est difficile de les montrer. Et en règle générale, ça permet aux participants de repartir avec une trace concrète et nous essayons, dans la mesure du possible aussi, de proposer aux artistes ce livret pour qu'eux-mêmes ont aussi une trace du regard que les participants portent sur leur travail artistique.
Oui, voilà. Tout à fait. Alors du coup, Tonia, pour qu'on comprenne bien, parce que moi, du coup, effectivement, j'ai encore jamais participé à un atelier d'écriture.
Oui.
Ça se déroule du coup en trois étapes. Du coup, il y a d'abord une phase de repère où du coup, on explique comment est-ce que ça va se dérouler, donc à peu près pendant 10-20 minutes. Après, il y a un travail du coup d'écriture où chacun va du coup s'exprimer simplement avec un stylo. Et après, ça se termine avec une restitution, comme tout travail, du coup, une restitution pendant 20 à 30 minutes, où là, en fait, chacun va s'exprimer, du coup, et restituer à l'oral.
Oui, tout à fait. Après, ça, bon, voilà, on va dire que c'est un processus, on va dire, qui peut se moduler, parce qu'en fait, les personnes, en règle générale, qui participent à ces ateliers d'écriture en mi-temps des expositions nantaises, sont, on va dire, déjà aguerries en termes d'écriture et ont déjà un regard de passionné pour l'art. Et c'est pour ça que j'aimerais, via votre émission, pouvoir faire venir d'autres publics et aussi d'autres Nantais, parce que la majorité, alors d'aujourd'hui, de nos participants viennent, on va dire, hors Nantes, en fait. Et l'idée, c'est aussi que les Nantais puissent venir.
D'accord. Voilà. Donc là, on entend vraiment du coup un appel du coup de la part de Tonia. N'hésitez pas à venir. Voilà. En tout cas, ceux qui ont envie de découvrir du coup l'atelier d'écriture. Alors effectivement, donc il y a en règle générale du coup beaucoup de personnes qui ont de vrais talents en herbe du coup qui ont l'habitude en tout cas de participer à plusieurs ateliers d'écriture.
Disons qu'ils ont cette appétence pour l'écrit, mais à la base, c'est on va dire des personnes qui ont une passion pour l'art, parce qu'en fait, les participants à l'heure d'aujourd'hui viennent aussi de notre réseau. En fait, moi, j'ai des personnes qui viennent parce qu'ils ont déjà participé à mes ateliers d'écriture, et pour mon amie Marie-Audrey Bousset, on va dire c'est son réseau de amical ou voilà. Qui ont déjà qui participent déjà à des ateliers d'art plastique, donc ça leur permet de porter un autre regard à travers l'écrit sur le travail d'un artiste en fait.
Est-ce que vous proposez éventuellement des ateliers d'écriture dans d'autres formes du coup artistiques, comme par exemple du coup que ce soit un opéra? Est-ce que par exemple ça pourrait être d'autres choses que uniquement une exposition?
Mais je rêverais effectivement de faire un atelier d'écriture en lien avec un opéra ou en lien avec du théâtre. Bon, je l'ai déjà fait, on va dire dans le cadre d'une troupe théâtrale amateur pour les, on va dire, débloquer en termes de récit. Mais effectivement, pour moi, tout est art. Donc, l'écrit peut se mêler à tout, en fait. Donc, c'est vrai que je peux intervenir là, vraiment là où ça m'inspire et là où on me demande. Donc, j'ai déjà été au muséum. Voilà, on a fait aussi des ateliers d'écriture, mais avec d'autres groupes au Jardin des Plantes. Voilà, c'est vraiment le lieu qui inspire l'écriture.
Via du coup un œil du coup qui va être singulier, à propre à chacun, comme vous pouvez notamment l'expliquer sur le site de la plume, etc.
Oui.
Tout de suite, nous allons faire du coup, Tonia, vous restez avec nous. On va faire juste une petite courte pub, du coup musicale. Et je laisse du coup Enzo vous présenter le titre de ce soir.
On va écouter Berlioz, qui est un jeune DJ, pas Berlioz, le il faut pas se tromper, pas le compositeur, mais bien un jeune. Alors je ne connais pas sa nationalité, je crois qu'il est américain, mais à revérifier. Berlioz, Jazz is for Ordinary People. Il a repris et créé des sons avec de saxophone jazz en faisant une musique house. C'est très joli, c'est très doux. Jazz is for Ordinary People de Berlioz, c'est tout de suite dans Curiosité.
Jazz was for ordinary people. Jazz is ordinary people. It's the music of the young. Every time young people invent music, everybody hates it. Thank you.
on m'a...
Auditeurs et auditrices, vous êtes toujours dans Curiosité, du coup sur Prune, il est 18h15 et nous sommes toujours avec Tonia. Tonia, du coup, l'une des animatrices de La Plume, etc., qui vous propose un atelier d'écriture pour découvrir autrement l'exposition Une vie à soi de Suzanne Valadon, que vous avez peut-être vue ou qu'en tout cas vous pourrez revoir de manière différente. Alors Tonia, nous avons échangé, nous avons expliqué justement aux auditeurs et auditrices du coup comment se déroule un atelier d'écriture, en quoi cela consiste exactement. Il y a la dernière phrase, la dernière en tout cas étape sur laquelle du coup on évoquait, qui était la restitution. Je me pose la question en tout cas sur est-ce que certains font relire éventuellement leur travail par d'autres personnes participantes éventuellement qui sont moins à l'aise à l'oral.
Alors, dans ce cas particulier, non. Après, dans le cas d'un atelier d'écriture, vous n'êtes pas dans l'obligation de lire à haute voix ce que vous avez écrit. Ça, c'est un principe qu'il faut respecter, mais en règle générale, quand quelqu'un commence à lire, donc le reste du groupe lit, et ça permet aussi de voir, d'entendre ce que les autres ont ressenti, et puis chacun a son style d'écriture, ce qui est très intéressant. Donc, je ne sais pas si je dois revenir concrètement cette fois-ci sur comment cela se passe.
Pourquoi pas ? Vous pouvez nous expliquer, effectivement.
C'est très simple. Avant l'atelier d'écriture, donc moi, je m'imprègne de l'exposition et aussi de la thématique. Et ça va m'inspirer des propositions d'écriture qui peuvent être soit de la prose, donc des textes, soit des textes poétiques. Et en fonction du sujet, par exemple, pour Suzanne Valadon, la première partie est consacrée à, on va dire,
sur sa vie.
À sa vie de modèle. Et donc là, ce que je vais proposer aux participants, c'est de choisir un tableau où Suzanne Valadon est donc modèle. Et donc, à partir de là, de faire une liste de mots, détails, expressions, couleurs. Et à partir de cette liste de mots, je vais leur proposer de faire un monologue. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, un modèle qui pose pour un artiste, ça prend quand même du temps, il a son esprit qui peut s'évader ailleurs. Donc, c'est une proposition qui m'est venue à l'idée en me disant, le modèle n'est pas seulement là pour l'artiste, mais il a aussi ses propres pensées quand il pose. Donc voilà la première proposition concrète que je vais pouvoir soumettre aux participants, si ça donne une idée plus concrète. Et il y a un temps déterminé ou un nombre de lignes déterminées à chaque fois.
Ah, je me posais aussi la question si on pouvait, parce que si quelqu'un du coup était autant qu'il était bavard, du coup il écrivait beaucoup, il écrit vite, est-ce que finalement il peut faire des pages et des pages et des pages du coup pendant l'atelier?
Après, ça dépend, parce que l'atelier d'écriture se déroule selon, on va dire, la scénographie d'une exposition. Donc, il y a différentes étapes dans une exposition. Donc, je demande du déplacement. On se déplace en fonction des différentes thématiques proposées. Donc, on ne s'arrête pas forcément à un instant T. On poursuit. En fait, l'atelier d'écriture suit, on va dire, le déroulé de l'exposition. Donc là, pour être concret, on va partir de Suzanne Valadon qui est modèle jusqu'à en fait la dernière étape de l'exposition où il y a les portraits de commande de ses soutiens amicaux ou professionnels. Donc voilà, c'est vraiment l'exposition qui qui soutient l'atelier d'écriture. C'est vraiment le cœur de l'atelier d'écriture, c'est l'exposition. Et dans le même cas, on va dire que ça permet aussi aux gens de visiter l'exposition. On ne reste pas forcément à un endroit et voilà, on écrit et on se pose. C'est pas ça l'idée, c'est à la fois de découvrir l'exposition, mais en même temps d'exprimer son ressenti et son imaginaire par rapport à l'artiste proposé, à la thématique proposée. Parce que là, bon, Suzanne Valadon, il y a quand même la grande thématique. Bon, voilà, elle a quand même mis en valeur le nu masculin. C'est central dans l'exposition. Donc voilà, je vais aussi proposer aux participants d'écrire autour de cette thématique du nu masculin à partir des tableaux proposés au musée d'art. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous donne une idée plus claire de ce que je peux proposer.
C'est-à-dire que l'exposition pose le cadre de ce que doivent les participants. Mais ça peut être difficile. Comment que peut nous faire dire une œuvre d'art, en fait, au cours? Comment on rend vivant ce qui est figé?
Alors, justement, une œuvre, en fait, la proposition de l'artiste qui peut sembler figée, mais en même temps, il exprime, on va dire, une émotion, une posture. Donc, comme je l'avais dit au départ, en fait, l'œuvre de l'artiste ne peut pas exister sans le regard du spectateur sur son travail. Donc, ça veut dire que même si ça semble figé, il y a quand même le portrait de commande ou le portrait intime, on voit quand même des expressions sur les visages. Et ces expressions nous parlent. Et selon nos ressentis, notre histoire, les expressions proposées, même si c'est un portrait qui peut sembler très figé, Suzanne Valadon notamment, n'a jamais, on va dire, embelli le visage ou le corps, et les visages sont très expressifs. Donc, les expressions qui rendent, on va dire, les expressions exprimées par cette peinture qui peut sembler figée, au contraire, résonnent en nous.
Donnent de la matière.
Voilà, exactement. Et pose figée devient vivante par le regard et le ressenti de celui qui écrit, voilà, autour de cette œuvre.
Est-ce que cet atelier d'écriture permet aussi de remettre l'écriture à une place de noblesse? Peut-être qu'on écrit moins aujourd'hui.
Alors, oui, peut-être avec les réseaux sociaux, mais en même temps, c'est aussi une forme d'écriture. Mais bon, je dirais que pour moi, tout le monde est en capacité d'écrire, d'exprimer son imaginaire. Je précise aussi, justement, vous parlez de lettres de noblesse. Dans un atelier d'écriture, ce qui compte, c'est de s'exprimer. Et l'orthographe, dans un premier temps, est secondaire. C'est vraiment s'exprimer.
Le sens.
Voilà. Le sens, et puis l'orthographe, on peut toujours la corriger par la suite, en fait.
En termes d'organisation, du coup, je me pose la question, est-ce qu'il y a un nombre limité de participants?
Non, pas du tout. Alors, aujourd'hui, je dirais, ça serait vraiment une surprise si j'ai 13 participants, mais si j'en ai 8, c'est confortable.
Donc, ça reste quand même toujours de manière très raisonnable. En tout cas, le nombre de participants, il n'y en a pas. J'ai du mal à avoir une notion, mais du coup, 30 participants qui viennent du coup, faire l'atelier d'écriture. Et comment ils vont tous du coup, pouvoir s'asseoir du coup, pour aussi écrire? Alors, c'est aussi une autre question qui me vient en tête. Moi, je me pose aussi la question du pratico-pratique. Moi qui n'en ai jamais fait, comment est-ce que du coup, je vais dans un musée qui est quand même pour pouvoir écrire? J'ai du mal, moi, à écrire si je ne suis pas sur une table aussi. Comment est-ce qu'on écrit finalement du coup?
Il y a un environnement.
Effectivement, j'amène toujours des porte-documents et dans les musées, vous avez des sièges-cannes. Donc, vous pouvez être assis et effectivement, avec les porte-documents, vous avez un support rigide pour vous permettre d'écrire dans tous les espaces possibles. Et je reviens à votre question, mais ça serait vraiment... c'est pour moi un rêve d'avoir autant de participants. Dans ces cas-là, si j'en ai 30, ça implique une logistique différente avec on va dire, l'équipe du musée. Là, c'est autre chose.
Ok, mais donc effectivement, du coup, si je retourne au musée, je vais en tout cas pouvoir repérer facilement du coup les participants et participantes parce qu'ils seront sur un siège. Après, s'ils sont en costume, là, c'est un agent de sécurité. Mais en tout cas, ça va être du coup, c'est comme ça que je vais les repérer, plus le calepin.
Alors non, pas du tout, parce que je donne rendez-vous aux participants parce que l'atelier d'écriture se déroule sur inscription. Comme ça, je sais le nombre de personnes présentes et ça me permet de m'organiser en termes logistiques. Je donne rendez-vous à l'accueil du musée. Donc l'atelier d'écriture Suzanne Valadon se déroule donc de 14h30 à 16h30. Donc je donne rendez-vous aux participants à 14h15 à l'accueil. Et on se rejoint tous à l'accueil et nous allons ensemble faire l'atelier d'écriture et nous allons aussi ensemble parcourir l'exposition en fait.
Et vous faites du coup l'atelier ensemble, du coup, avec Marie-Odile, mais en fait, vous êtes complémentaires sur votre façon de présentation, de pouvoir...
Effectivement. Alors, Marie-Odile aussi s'occupe plutôt avec moi de la programmation et du visuel, parce que je n'ai pas les compétences dans ce domaine-là. Et par contre, l'atelier d'écriture, l'animation et le déroulé se font avec moi. Et Marie-Odile, dans ces cas-là, devient une participante. Voilà. Donc, disons, l'atelier d'écriture est porté par moi, mais tout ce qui est programmation et communication visuelle, c'est Marie-Odile ou c'est qui le porte, en fait.
Très voilà. Bien. J'ai une dernière question, du coup, Tonia. Est-ce qu'il y a des projets, du coup, par rapport à la suite ? On est curieux de savoir. Qu'est-ce que...
L'objectif.
Alors, on a bien compris qu'il y avait l'opéra. Hein, on lance un appel aussi aux opéras. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont déjà en cours actuellement ?
Alors, nous sommes en réflexion pour proposer notre parcours 4 au Miton des expositions nantaises. Donc là, on est en... La programmation, c'est déjà... Voilà, on l'a déjà un peu profilé. Donc, je peux déjà vous dire que le 17 janvier prochain, on va faire un atelier d'écriture au passage Sainte-Croix. Ah. Donc, ça va être une première parce que je n'ai jamais fait d'atelier d'écriture dans cet espace. Donc, voilà. Donc là, la date est posée le 17 janvier prochain. Après, en février, mars, on est en attente. J'attends des réponses et en fonction des réponses, voilà, la programmation peut changer. Mais voilà, avec Marie-Odile Rousset, c'est vraiment ce parcours au Miton des expositions nantaises. Moi, par ailleurs, je propose aussi d'autres ateliers ailleurs, en fait, dans des lieux d'exposition et en fonction de là où on me demande, en fait. Hein.
Très bien. Bah, en tout cas, merci du coup Tonia pour toutes ces informations. Moi-même, du coup, j'ai beaucoup appris. Sachez en tout cas, auditeurs, auditrices, que vous pouvez retrouver les informations directement sur le site internet. Donc, je répète, www.laplume-etc.com.
Merci, tout à fait.
Merci en tout cas, Tonia. Auditoris, du coup, il est désormais bientôt 18h30 et c'est désormais du coup la fin de Curiosité sur Prune. Merci infiniment de nous avoir écoutés et d'avoir passé une heure à notre compagnie. Aujourd'hui, je rappelle l'équipe du jour. Alors, il y avait en plus même directement Enzo qui nous a présenté directement le collectif Sauvons des Goars avec la présence du coup de Alice Gatineau et de Reynald Guibert de la CGT. Mairie de Nantes. Ensuite, nous avons eu également Sophie à qui nous avons laissé la parole pour le Labo des Savoirs. Également Esteban.
C'était pas directement Sophie. Un des participants, un des bénévoles du Labo des Savoirs.
C'est vrai, tout à fait. Merci Enzo. Il y avait également du coup la pause cadeau par Esteban. Et nous avons terminé du coup également avec l'interview Tonia, du coup l'animatrice de une des deux animatrices de La Plume, etc. pour l'exposition de Suzanne Valadon, du coup qui se déroule ce mercredi, que vous pouvez assister directement. Nous avons également aussi Titouan à la réalisation et également Constance si vous le voyez du coup je pense que vous rigolerez beaucoup. Sachez que vous pouvez en tout cas réécouter du coup faire écouter pourquoi pas réécouter en tout cas le podcast dès ce soir à le partager, tout à fait, de toutes les émissions sur prune.net. N'oubliez pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux, alors Instagram et Facebook, et c'est comme ça que vous pourrez avoir du coup les cadeaux de la pause cadeau. On se retrouve dans tous les cas lundi prochain, même heure. Restez du coup à l'antenne, car à 19h, ce sera l'émission L'œil politique. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous, bisous.
Au revoir.
Au revoir.
Curiosité. Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 et en podcast sur prune.net.